France Musique. Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Saskia Deville.
Bonjour Laurence Equilbé.
Bonjour.
Bienvenue dans Musique Matin. Vous êtes chef d'orchestre, vous êtes né en 1962 à Paris. Vous avez fondé le chœur de chambre Accentus. Vous avez fondé et vous dirigez l'Insula Orchestra. Insula comme...
Comme l'île en latin, mais c'est aussi une région du cerveau, figurez-vous, est très importante parce qu'elle sert à transformer les sensations en émotions.
Quel meilleur message que pour véhiculer de la musique, évidemment. Quelles sont les responsabilités d'une chef d'orchestre, Laurence Equilbé, selon vous ?
Elles sont multiples, à la fois comprendre une œuvre, être suffisamment informée sur cette œuvre pour la passer au public et aussi pour la... synthétiser tout ce que les musiciens peuvent aussi ressentir dans cette œuvre, s'occuper de la balance, du tempo, des couleurs, mais aussi il y a un travail, je dirais, presque démocratique avec tous les musiciens qui sont formidables, les chanteurs, pour essayer que chacun aille aux limites de son possible. Et donc, c'est passionnant parce qu'on est un petit peu le grand ordonnateur de, justement, de cette alchimie extraordinaire qu'est la musique.
Quelle part de votre travail se fait à la maison, Laurence Equilbé ?
Je travaille souvent soit à la scène musicale où Insula est en résidence, soit chez moi, soit aussi dans d'autres résidences. L'été, souvent, j'étudie beaucoup l'été. Et donc, c'est une part très importante. Il faut aimer étudier pour faire ce métier, c'est
ça. Ça se passe comment, justement, l'étude ?
L'étude, c'est vraiment, je pense que c'était Giulini qui disait qu'il travaillait toujours une partition un an à l'avance pour qu'elle ait le temps de s'inscrire. Et ça, c'est très important, le recul sur une œuvre, pour qu'effectivement, ça devienne presque un sentiment organique chez vous. Et donc, il faut l'étudier suffisamment en amont. Donc, vous étudiez d'abord sa structure harmonique, sa structure formelle. Ensuite, vous lisez beaucoup de choses autour de cette œuvre. Vous savez, moi, Insula est sur instrument d'époque, donc on est beaucoup aussi dans les traités d'exécution de l'époque, dans les correspondances du compositeur. On essaie de se rapprocher au plus près de la volonté d'un compositeur pour justement savoir qu'est-ce qu'il voulait nous dire. Et ce qui est passionnant, je trouve, avec cette démarche, c'est dès qu'on s'approche d'un compositeur de plus près, on s'aperçoit que ça résonne encore plus avec l'époque. Donc c'est ça qui me passionne aussi dans cette démarche.
Avez-vous déjà changé d'avis sur une œuvre avec le recul ?
Sûrement. Je suis moins radicale qu'avant. Voilà, il y a peut-être des musiques peut-être très sentimentales que j'accepte de diriger parfois, ou
parce que c'est-à-dire
j'étais plutôt dans l'esthétique en tant que chef, baroque, pré-romantique, des choses. Mais maintenant, j'accepte des œuvres peut-être moins structurées et plus humaines, je vais dire. Donc voilà, ça m'est arrivé, oui, de changer d'avis.
Bertrand Chamaillou ici pour le début de cette fantaisie chorale en ut mineur de Beethoven, un extrait de ce nouveau disque que dont vous venez nous parler ce matin, Laurence Equilbé, oui. Avec l'Insel Orchestra et puis énormément de solistes réunis à vos côtés, Beethoven au cœur de cet enregistrement. Et pour présenter ce disque, vous utilisez des mots, ou du moins c'est ce qu'on peut lire dans les différents documents qui accompagnent le livret, fraternité, héroïsme, joie démesurée, libre, électrique, possédé, révolté, tous des objectifs qui collent assez bien à Beethoven.
Oui, c'est vrai. Ça, vous savez que tout le monde sait que ça va être l'anniversaire de Beethoven en 2020, des 250 ans de sa naissance. Et du coup, avec Insula, on a fait tout un projet Beethoven depuis 248. On a pris deux ans d'élan, je veux dire, pour célébrer ce compositeur immense. Et du coup aussi avec on a travaillé beaucoup sur les valeurs beethoveniennes que vous venez de citer, et on est en train d'interroger 250 jeunes de tous les pays du monde qui connaissent un peu Beethoven pour réfléchir sur ses valeurs et les faire retravailler, les approfondir. Et il y aura un film qui va sortir de ce grand gigantesque sondage.
Et quels sont les premiers justement aspects qui se dégagent de ces sondages justement?
C'est beaucoup la liberté, effectivement, la sensation aussi de quelqu'un d'assez révolté, d'assez passionné, d'assez possédé pour des valeurs justement, et d'électrique et d'impatient.
En quoi était-il libre?
En fait, il était tout à fait révolté de ce qui se passait en Europe à ce moment-là, politiquement. Et donc, il a vécu quelques jours dans une cave contre les bombes, contre les canons. Donc, c'était impressionnant. C'est quelqu'un aussi qui avait une liberté de pensée absolue et qui détestait les chemins tout faits, tout tracés. Et donc, c'est vraiment une figure très intéressante pour les jeunes, je trouve, si on la creuse. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'avais commandé un portrait à une jeune dessinatrice de dessiner ce Beethoven-là, jeune, et c'est un peu... Il y avait aussi eu un disque avec Nicolas Angelich,
dont on a écouté un extrait tout à l'heure, d'ailleurs.
Qui était le premier volet de ce diptyque, et donc ce deuxième disque avec le triple concerto et la fantaisie chorale. Et cette fantaisie, donc là, on entendait à l'instant Bertrand Chamaillou dans la grande introduction de la fantaisie chorale, que nous avons joué pour l'inauguration de la scène musicale il y a deux ans de ça, maintenant.
Et ça a été enregistré effectivement lors de ce concert. Vous parliez de ce compositeur concerné par ce qui se passait autour de lui, évidemment à son époque, Beethoven. Fin mars, vous avez lancé une invitation à des demandeurs d'asile et de réfugiés à assister à un concert de l'Insula Orchestra. Vous allez continuer à travailler cette saison avec le mouvement Habitat et Humanisme, qui lutte contre la précarité en France, qui cherche à recréer des liens sociaux. Comment vous est venue cette idée, cette envie de collaboration?
On a un projet pédagogique très important, que ce soit dans le projet Accentus ou Insula Orchestra, et ça c'est vraiment la transmission, l'inclusion. Alors il y a plusieurs volets dans cette pédagogie-là, d'abord les enfants, les publics captifs, mais aussi les jeunes gens, les étudiants, les amateurs, et aussi les publics empêchés, et aussi les migrants qui sont en attente de documents ici. Et donc c'est très important à la fois de transmettre au niveau pédagogique avec des étudiants, mais aussi de s'adresser à tout le monde. Et j'aime beaucoup faire aussi des projets sur digitaux ou en bande dessinée ou dans le numérique pour m'adresser à ces jeunes. Et effectivement, ce projet avec les migrants, c'est un projet au long cours, parce qu'ils sont encore venus récemment pour une passion sur Saint-Jean. Ils étaient seuls en salle pendant la générale, et comme c'était une générale en tenue, avec lumière, c'était assez merveilleux. Et ensuite, après, on discute, et c'est très très important d'accueillir ces jeunes gens, parce qu'ils ont tous moins de 20 ans.
On va écouter un deuxième extrait de cette fameuse fantaisie chorale de Beethoven, œuvre qui préfigure, on y retrouve certains thèmes de la 9e symphonie que Beethoven utilisera par la suite. Un texte de Christoph Kufner est chanté ici, un message humaniste que je vous propose d'entendre avec de merveilleux chanteurs quand même. Hein. Sandrine Piau, Anaïck Morel, Stanislas de Barberac et Florian Sempé. Paix et joie s'accordent aimablement comme le jeu des vagues qui se précipitent, brutales et fougueuses. Tout s'ordonne vers l'exaltation. Une partie de ce texte chanté dans la fantaisie chorale de Beethoven par Sandrine Piau, Anaïck Morel, Stanislas de Barberac, Florian Sempé, le chœur Axentus aussi, Bertrand Chamaillé au piano, Lynch l'orchestra, ça fait une bonne équipe autour de vous, à vos côtés, Laurence Equilbé, sur ce disque qui paraît donc sous le label Erato, fantaisie chorale. Je me rappelle avoir été présente à ce concert d'une à la scène musicale, c'était donc en 2017, ce qui vous accompagne aussi énormément, vous en disiez quelques mots Laurence Equilbé il y a quelques instants, c'est la dramaturgie mise en place autour des concerts, vous aimez collaborer avec des comédiens, proposer de la vidéo, des projections, du dessin en direct, vous avez même créé une mini-série, qu'est-ce que vous cherchez à travers ces médiums-là, Laurence Equilbé, à toucher un autre public,
Avant tout, c'est vraiment un désir artistique hein, de ne jamais être déjà dans la répétition, dans la routine. Je pense que l'imitation est une erreur et qu'il faut toujours créer des nouveaux chemins, essayer de nouveaux défis. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui dans les possibilités technologiques qu'on peut avoir, c'est cette constellation possible autour d'un message. Là, dans Beethoven raconte que l'art peut sauver le monde, dans cette petite sœur de là, d'ailleurs on dit la petite sœur de la 9e, en fait, elle est plus ancienne que la 9e, elle a généré la 9e, qui est un message d'ailleurs qui développe dans les ruines d'Athènes ou dans la bénédiction de la maison. C'était très important pour Beethoven de dire que l'art peut sauver le monde. Mais après, dans la 9e, il dit plutôt que l'humain peut sauver le monde. Et ça, c'est intéressant aussi de comprendre que on doit vraiment sentir que on n'est jamais complet en soi-même, seul. Et donc, c'est peut-être la leçon qui nous laisse. Et du coup, moi, je trouve toujours intéressant, quand on a une œuvre maîtresse, d'essayer de construire autour toute une constellation de projets. Et par exemple, de réfléchir aussi à comment on va montrer ce projet, aux, notamment aux jeunes générations. Comment est-ce qu'on va s'ouvrir, sortir de sa zone de confort à des plasticiens, à des cinéastes, à des danseurs, à des chorégraphes, à des dessinateurs qu'on a pu le faire dans le Thamos roi d'Égypte. Alors, chaque fois, il faut essayer d'ouvrir ça et ne pas laisser non plus le digital absent de cette conversation. C'est-à-dire qu'effectivement, les web-séries sont des choses, moi, qui m'amusent beaucoup parce qu'elles permettent d'éclairer une œuvre depuis un autre angle et justement de pouvoir inclure d'autres gens dans la conversation générale. Ça, c'est très intéressant.
Et puis, même si on dit souvent qu'évidemment ce message est universel ou les messages véhiculés dans la musique classique sont universels, peut-être de les faire connecter avec le monde d'aujourd'hui via ces technologies.
Bah, moi, c'est vraiment ma quête, c'est de raisonner avec l'époque. Alors, ça ne veut pas dire de la démagogie artistique, hein, mais c'est de chercher cette clé de résonance. Et en ça, j'étais assez influencée par Armand Cour, avec qui j'ai travaillé à Vienne pendant mes études, et qui disait toujours, si une œuvre ne résonne pas aujourd'hui, il ne faut pas la faire. Donc c'est quand même assez radical pour ce pionnier de la recherche historicisante. Et c'est d'ailleurs, il avait été attaqué au moment où il avait commencé à faire quelques compromis. D'ailleurs, ce qu'on a fait dans ce disque Beethoven, parce que c'est enregistré avec un très très beau Pleyel 1892, donc un peu plus tardif, mais qui reste un compromis magnifique, je trouve, avec les instruments d'époque, que sont une soul orchestra, parce que il y a quand même un son très boisé, très vif, très léger, qui est beaucoup plus proche du pianoforte de l'époque de Beethoven.
J'aimerais qu'on parle rapidement de ce projet à venir fin juin à la scène musicale, un projet autour du Requiem de Mozart, encore un autre répertoire. Vous collaborez avec un artiste que j'aime beaucoup, Johann Bourgeois, artiste de cirque.
Oui, peut-être
que nos auditeurs ont déjà vu l'une ou l'autre de ses mises en scène.
Johann Bourgeois, c'est un danseur de cirque, il dit lui-même, qui est chorégraphe, qui dirige le CCN de Grenoble, un très très grand artiste avec lequel on travaille sur le Requiem de Mozart, mais sur les fragments uniquement. Donc, il travaille beaucoup sur le point de suspension, sur le manque, cet artiste. Et donc, ensemble, on s'est mis d'accord, on avait évoqué cette piste du Requiem de Mozart. Et je pense que ça va être intéressant de voir le projet aussi du Festival d'Aix, qui avec vraiment tout le Requiem de Mozart pour le coup, avec Castellucci.
Romeo Castellucci qui mettra ça en scène les sept saisons, là, c'est au mois de juillet.
Ce que j'ai entendu ce projet, c'est que c'était l'entièreté du Requiem plus d'autres œuvres. Et nous, c'est presque à l'inverse, uniquement les fragments originaux du Requiem, c'est-à-dire assez peu de choses. Finalement, il n'y a même pas 30 minutes de musique, avec quelques rajouts d'interstitiels, justement, où on entend quelques prémices, des choses comme ça. Et on va travailler sur ce manque, et ça va être une structure incroyable, une nouvelle structure justement, parce que Johann Bourgeois travaille beaucoup avec les escaliers, les trampolines, mais maintenant c'est tout à fait un autre vocabulaire qu'il est en train de développer en ce moment même, parce que je crois qu'ils sont en résidence, et on a 6 représentations de ce projet qui donc durera une heure en tout. Je pense que ce sera assez ténu comme projet.
C'est une manière toujours de se réapproprier le répertoire finalement et de le faire découvrir sous d'autres aspects. Ce sera donc à suivre fin juin à la scène musicale, on vous en reparlera. Laurence Equilbé, on va écouter un extrait de ce triple concerto qu'on peut aussi entendre sur ce nouveau disque qui paraît chez Rato avec d'autres solistes. Alexandra Konunova au violon, la violoncelliste Nathalie Klein et le pianiste David Cadouche. Merci beaucoup Laurence Equilbé
d'être venue nous voir ce matin.
Bonne journée. quelques mesures du troisième mouvement du triple concerto pour violon, violoncelle et piano de Beethoven à retrouver sur ce disque donc qui paraît chez Erato avec Alexandra Konunova, Nathalie Klein, David Cadouche, l'Insula Orchestra et Laurence Equilbé qui était notre invité.
À réécouter sur francemusique.fr.